Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On va parler petites planètes astéroïdes en compagnie de notre invité Patrick Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable du groupe de planétologie dynamique. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. On parlait autrefois des astéroïdes comme de la vermine du système solaire. Alors évidemment, ça a bien changé. On les appelle maintenant des petites planètes, même si le terme planète n'est plus nécessairement consacré à ce type d'objet. Patrick Michel, dans le système solaire, les petites planètes, combien y en a-t-il ?
Alors, les petites planètes, il y en a des millions, voire des milliards, ça dépend de la taille des objets qu'on veut étudier. Bon, disons qu'on a en tous les cas une ceinture de petits corps qui est située entre Mars et Jupiter et qui est donc constituée de rochers, c'est des bouts de cailloux, dont le plus gros fait à peu près 1000 km et on estime qu'il y a à peu près 1 million d'objets de diamètre supérieur à 1 km. Et plus on descend dans les tailles, plus ils sont nombreux. Donc il y en a énormément. Simplement, il ne faut pas non plus se tromper. Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'ils constituent une masse très importante. Puisqu'en fait, si on prend la totalité des astéroïdes, donc qui sont ces petits rochers dont la plupart sont situés entre Mars et Jupiter, dans la ceinture principale, eh bien la totalité fait à peu près 1/1000 de la masse de la Terre. Donc on est encore très faible si on répartit. Et la plupart de la masse est dans le plus gros qui s'appelle Cérès et qui fait 1000 km de diamètre. Alors peut-être faudrait distinguer d'ailleurs, parce que beaucoup de gens posent la question, les comètes des astéroïdes, parce que finalement on a des populations de petits corps, donc de petites planètes dans le système solaire, et selon où ils sont, on va les appeler comètes ou on va les appeler astéroïdes. En fait, la différence, c'est que les populations de petits corps qui sont très loin du Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune, qui est donc la planète la plus lointaine avant Pluton, mais maintenant Pluton n'est plus considéré comme une planète, eh bien, on les appelle les comètes parce qu'elles sont très riches en volatiles, puisqu'il fait froid, donc les volatiles subsistent, et en glace. Et quand elles ont l'opportunité de rentrer dans notre système solaire interne par des perturbations gravitationnelles, eh bien, la glace va fondre. Et ça va faire donc cette queue qu'on appelle la coma de la comète. Donc les comètes sont des corps qu'on appelle actifs, puisqu'ils ont une activité sur leur surface. C'est cela qui les distingue des astéroïdes, qui eux, comme je le disais, sont pour la plupart entre Mars et Jupiter. Et là, il fait trop chaud pour que la glace subsiste et qu'il y ait une activité. Et donc c'est comme ça qu'on fait la distinction. C'est en fait des corps qui appartenaient au départ tous à la nébuleuse solaire dans laquelle sont fabriquées les planètes. Mais la différence, c'est que ceux qui sont plus loin ont une activité, ceux qui sont plus près n'en ont pas.
Alors sait-on pourquoi ces corps sont majoritairement dans cette ceinture principale entre Mars et Jupiter ? S'agit-il d'un endroit où une planète n'a pas pu se former ?
Alors ça, c'est un débat maintenant qui est clos, mais qui a été assez long. En fait, au départ, on avait une loi qui s'appelait la loi de Titus-Bode, qui est une loi qui est purement empirique, qui suit une suite géométrique. Ceux qui sont encore au lycée doivent savoir ce que c'est. Et ça nous donne en fait les distances au Soleil des planètes. Et Titus et Bode avaient remarqué que si on regardait les distances des planètes au Soleil, enfin pour celles qui étaient connues, eh bien ces distances correspondaient à une suite géométrique. Et on pouvait donc prédire quelles devaient être les distances de toutes les planètes. Et c'est vrai que ça suit remarquablement cette loi-là. Mercure est à 0,4 unités astronomiques du Soleil, donc 0,4 fois la distance Terre-Soleil. Vénus 0,7, la Terre à 1, Mars à 1,5 et quelques, etc. Et ils avaient trouvé que entre Mars et Jupiter, donc Mars est à peu près 1,53 fois la distance Terre-Soleil, Jupiter à 5,2, eh bien on devait avoir un corps à 2, et quelques unités astronomiques du Soleil. Et il n'y en avait pas. Et en 1801, l'astronome Piazzi à Palerme a observé un corps, Cérès, qui était donc le premier, en fait, d'une série de corps qu'on allait découvrir ensuite, qui fait 1000 km de diamètre. Et on s'est dit, c'est la planète qui manquait. Sauf que quelques années plus tard, on en a découvert d'autres. Pallas, Vesta, les plus gros d'entre eux, qui font à peu près 500 km de diamètre, Juno. Et donc on s'est dit, il n'y en a pas qu'un, donc c'est pas la planète qui manquait, qu'est-ce qui se passe? Et comme on en découvrait de plus en plus, on s'est dit, si, c'était une planète, elle s'est détruite. Et en fait, on s'est aperçu que non. Quand on a commencé à avoir une compréhension un peu plus grande de la manière dont le système solaire s'était formé, On s'est aperçu que probablement ce qui s'était passé, c'est que les quatre planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, s'étaient formées les premières parce qu'elles contiennent du gaz qui était du gaz de la nébuleuse solaire dans lequel le système solaire s'est formé, hein, puisque je rappelle brièvement qu'on pense que le Soleil s'est formé donc, et avait autour de lui un disque de gaz et de poussière, et c'est cette poussière qui s'est accrétée qui a formé les planètes. Et la durée de vie du gaz dans les systèmes solaires jeunes, eh bien, est à peine de 10 millions d'années. Donc Jupiter étant la plus massive, c'est elle qui a pu accréter tout ce gaz, avec aussi Saturne, et donc ce sont elles qui sont formées les plus vite, puisqu'elles sont formées tandis que le gaz était encore présent. Et ensuite, on avait les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont produites. Et entre les deux, entre Mars et Jupiter, il y avait une zone dans laquelle il y avait des rochers, mais du fait que Jupiter et Mars étaient formés assez rapidement, les perturbations engendrées par Mars d'un côté et Jupiter de l'autre faisaient que les vitesses à laquelle ces cailloux se rencontraient étaient trop grandes pour qu'ils puissent s'agglomérer pour former une planète. Et du coup, on a eu une planète ratée. C'est pas une planète qui a été détruite. On avait une ceinture de corps qui est en fait une planète ratée, parce qu'à chaque fois que les corps rentraient en collision avec les autres, les uns avec les autres, plutôt que de s'accréter pour former un corps, ben, ils produisaient des fragments et ils peuplaient ainsi une ceinture qui est restée jusqu'à nos jours, mais qui se vide petit à petit.
Est-ce que ça veut dire, à contrario, que la Terre et les autres planètes sont formées de ce type d'objets ?
Alors tout à fait, c'est justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est intéressant d'étudier ces cailloux, parce qu'après tout, on pourrait dire justement, c'est la vermine du ciel, c'est des bouts de cailloux là qui bougent, ils nous empêchent de voir les étoiles, enfin ce qu'on veut. Et en fait, on s'est aperçu que non, c'était très important de les étudier, parce que ces corps-là, en fait, au départ, tout le système solaire était peuplé de poussière, ces poussières ont grossi un peu partout, et ça, ce sont les reliquats. Donc finalement, c'est un petit peu l'ADN de notre système solaire, comme je dis souvent, puisque c'est un petit peu le reste des briques qu'ont formé nos planètes et qui ont en plus l'avantage de ne pas avoir vraiment évolué en termes de leur composition, contrairement aux planètes qu'ils ont formées, puisque quand ils ont commencé à former des planètes, les planètes grossissant, elles ont commencé à ce qu'on appelle se différencier, c'est-à-dire que l'intérieur était très chaud et les éléments lourds descendaient au centre et les éléments un peu plus légers formaient le manteau. Tandis que ces corps-là, qui font au plus 1000 km de diamètre, ils n'ont pas subi, pour en tout cas la majorité d'entre eux, de différenciation majeure, et donc ils sont restés à peu près tels qu'ils ont été créés au départ. Et donc finalement, quand on fait des modèles pour fabriquer les planètes, c'est un peu comme une recette de cuisine, il faut mettre des ingrédients, hein. On fait une omelette, on met des œufs, et puis ça fait une omelette. D'ailleurs, si vous regardez une omelette, c'est pas évident de deviner que c'était fait à partir de bosons d'œufs. Et bien là, c'est pareil, le système solaire, on le voit maintenant, c'est le résultat final de toute une cuisson, enfin d'un processus, comme dans une cuisine. Et ce qu'il faut, ben, c'est au départ, le cuisinier, il a besoin de savoir avec quoi il part comme ingrédient pour faire son ragoût. Et ben voilà, ben nous, l'astrophysicien qui travaille là-dessus, il faut que les astéroïdes finalement nous fournissent les ingrédients qu'il faut mettre dans les modèles en termes de composition, etc., pour fabriquer les planètes.
Alors, pour conserver votre image de cuisine, c'est un peu des grumeaux, hein, de ce qui reste de la préparation initiale. Est-ce qu'il y en a ailleurs qu'entre Mars et Jupiter, et à quoi correspondent les positions de ces autres astéroïdes ?
Alors, il y en a ailleurs parce qu'en fait, donc la ceinture d'astéroïdes est donc une ceinture qui est relativement bien. C'est un anneau en fait. Il faudrait s'imaginer ça comme un anneau et qui d'ailleurs je prends toujours aussi cette analogie avec Han Solo dans La Guerre des Étoiles, qui traverse avec son Faucon Millenium les ceintures d'astéroïdes et qui les évite et qui tire dessus pour s'en débarrasser. En fait, même si on a beaucoup, on disait des millions de plus grands que 1 km, l'espace est tellement grand que des petits corps de 1 km dans un immense espace, on les voit pas. Heureusement d'ailleurs, puisque les missions qui vont observer Jupiter comme Cassini ou Galileo, si elles devaient jouer à cache-cache avec des astéroïdes, et c'est plutôt une quête pour les trouver. Et ces astéroïdes, en effet, eh bien, évoluent au cours du temps. Alors certains sont sur des trajectoires autour du Soleil relativement stables sur des milliards d'années, mais cependant, ils subissent des processus, des perturbations dues à Jupiter, des collisions entre eux, qui font que, eh bien, ils peuvent être déstabilisés et être envoyés sur des trajectoires qui deviennent instables. Il y a des zones dans la ceinture des astéroïdes qui sont très instables rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques millions d'années, ce qui est très, très court par rapport à l'âge du système solaire, hein, 4 milliards et demi d'années, eh bien, ces objets-là peuvent complètement changer de trajectoire, voire même devenir des croiseurs des planètes internes, donc croiseurs de la Terre. Et c'est ainsi qu'on a aussi une population qui se distingue de la ceinture des astéroïdes, qui est la population des croiseurs des planètes, qui sont donc des objets qui ont pour caractéristique de croiser les planètes telluriques.
Ce sont des astéroïdes qui ont été éjectés de la ceinture principale, en quelque sorte.
Voilà, ils ont été transportés par des mécanismes, ce qu'on appelle des résonances, en fait. Ce sont des mécanismes source d'instabilité. Une résonance, c'est un petit peu, vous avez ça sur les ponts, quand vous marchez sur un pont, les militaires, on leur dit ne marchez pas au pas, parce que pour peu que leur pas corresponde à la fréquence propre, tout objet vibre librement, même quand vous ne le touchez pas. Et si vous donnez des impulsions à une fréquence qui correspond à leur fréquence de vibration libre, eh bien vous amplifiez leurs vibrations et vous les cassez, les ponts. Eh bien, finalement, un système planétaire, les orbites, les trajectoires autour du Soleil, ça correspond à des oscillations, en fait. Hein. Le Jupiter, tous les 11 ans, revient à la même... comme une balançoire, hein, qui est périodique. Et eh bien, si jamais Jupiter produit des impulsions gravitationnelles, donc son attraction, eh bien, à une certaine fréquence qui correspond à la fréquence de révolution autour du Soleil d'un astéroïde, ou en tout cas est proportionnelle, vous amplifiez les perturbations de Jupiter sur l'astéroïde, et ça a pour effet de modifier sa trajectoire et sur 1 million d'années, de l'envoyer vers la région croisant la Terre. Et ça correspond à des distances fixes par rapport au Soleil. Il y a ces effets-là.
Alors, à quoi correspondent ces noms de famille que l'on trouve régulièrement dans la littérature quand il s'agit des astéroïdes Apollo, Amor, etc. Ce sont des familles d'astéroïdes éjectés ?
Alors, ce ne sont pas des familles, parce qu'on a aussi une autre définition pour les familles. On a, pour les Apollo, les Amor et les Athènes, comme on les appelle, c'est une classification, c'est des groupes d'astéroïdes, donc, qui ont été classés, donc ça, ce sont des croiseurs de la Terre, ces trois groupes, et ils ont été classés, ça c'est purement par les observateurs, pour des raisons pratiques, en fonction de leurs paramètres orbitaux, enfin en fonction de différents paramètres qui définissent leur trajectoire. Et il y a vraiment trois classes qui se distinguent. Par exemple, les Athènes sont des objets qui ont pour caractéristique d'être pour la plupart du temps à l'intérieur de l'orbite de la Terre. La plus grande partie de leur trajectoire est à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Les Apollo, eux, sont pour la plupart du temps à l'extérieur de l'orbite de la Terre, mais la croisent. Les Amor sont des objets qui croisent la trajectoire de Mars, s'approchent de celle de la Terre sans la croiser. Mais je dis que c'est une classification pour les observateurs, parce qu'en fait, pour nous, les dynamiciens qui étudions leurs évolutions, on sait bien que ces objets-là, une fois qu'ils deviennent croiseurs d'une planète, leur évolution est si instable et évolue si rapidement dans le temps qu'ils restent à mort très peu de temps. Mars va, une fois qu'ils croisent Mars, ils vont finir par croiser la Terre, donc devenir Apollo, et éventuellement même aller à l'intérieur de la Terre, devenir Athènes, pour redevenir Apollo, etc. Donc, c'est des classifications qui sont très temporaires. Donc on peut pas vraiment, c'est un petit peu trompeur de parler de cette classe-là. Pour ça que moi je regroupe ça dans les croiseurs de la Terre, et une fois qu'ils sont là, tout évolue. On a une autre catégorie d'astéroïdes qu'on appelle les familles d'astéroïdes, et ça c'est encore différent. C'est que dans la ceinture des astéroïdes, donc là on repart entre Mars et Jupiter, on a identifié une vingtaine de groupes qui ont pour propriété chacun. Donc les membres de chaque groupe partagent les mêmes propriétés orbitales, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés dans l'espace à peu près dans la même zone, et ils ont aussi les mêmes propriétés spectrales. C'est-à-dire quand on fait des spectres de ces objets, ils ont à peu près le même, ce qu'on appelle type taxonomique, qui est en gros un lien génétique, même composition. Et ces groupes se distinguent très fortement du groupe qui est en background, c'est-à-dire derrière. Si vous prenez tous les astéroïdes qui évoluent autour d'eux, ils ont des compositions qui sont complètement distinctes de ces groupes-là.
Est-ce que ça veut dire que ce sont des corps qui se sont fragmentés, qui sont rentrés en collision, et vous observez en quelque sorte les frères et les sœurs de l'objet initial, en fait?
Alors c'est pour ça que je parlais de lien génétique. C'est qu'effectivement, ce que l'on pense et ce que l'on a reproduit, on a réussi à reproduire aussi par simulation, parce qu'avant, c'était simplement un résultat observationnel, disons un indice observationnel, c'est qu'on pense que chacune de ces familles était à l'origine un gros corps d'une plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, selon la famille, à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, qui a subi une collision majeure, et cette collision a produit des fragments, et ces fragments ont évolué, mais ils sont restés relativement cloisonnés les uns avec les autres. Certains ont pu être envoyés sur des trajectoires instables, mais pour les plus gros d'entre eux qu'on observe et qu'on identifie, ils sont restés cloisonnés dans l'espace. Et finalement, la nature nous a fourni le meilleur laboratoire expérimental pour étudier le processus de collision à grande échelle, puisque ces familles-là sont le résultat d'une expérience de collision, tandis que nous, en laboratoire, on essaie de les faire, mais sur des corps centimétriques, et on ne peut pas extrapoler ce qui se passe à un centimètre, à plusieurs centaines de kilomètres.
Alors, restons sur ces collisions. Patrick Michel, vous nous expliquiez que les astéroïdes étaient éloignés les uns des autres de telle façon que, finalement, on pouvait laisser passer une sonde spatiale sans difficulté. Est-ce que les collisions sont fréquentes et peut-on aujourd'hui, vu ce que l'on sait, les décrire? Comment ça se passe? Casser un objet, même si c'est une mini-planète de quelques kilomètres, c'est quand même pas une affaire simple.
C'est pas une affaire simple. Alors, les collisions sont fréquentes, encore une fois, pas sur la durée de vie d'un individu terrien, mais sur la durée de vie du système solaire, oui, elles sont très très fréquentes. C'est de l'ordre du million d'années, voire moins. Pour de grosses collisions. Et d'ailleurs, ça on peut le remarquer, c'est d'ailleurs très frappant. Quand vous regardez les images des astéroïdes qui ont été visités par des sondes spatiales, enfin, auxquelles les sondes spatiales ont rendu visite, on s'aperçoit que même des corps de quelques kilomètres de diamètre sont peuplés de cratères. Ils sont remplis de cratères. Donc ça veut bien dire que c'est un phénomène continu. Et en plus, on voit leurs formes qui sont très irrégulières, donc sont la plupart des fragments de seconde génération. On estime que tous les corps qui sont de taille inférieure à 50 km sont probablement des fragments de corps plus gros. Donc, comme les plus gros corps font 1000 km et qu'on n'a qu'une trentaine de corps de diamètre supérieur à 200 km, la plupart des corps que l'on observe actuellement, ou qui sont dans la ceinture actuellement, sont de seconde génération au moins, c'est-à-dire le résultat d'impact. Donc les collisions sont quelque chose de très fréquent. Alors le problème, c'est que la physique des collisions, enfin comment est-ce qu'on étudie ça, comment est-ce qu'on comprend les familles d'astéroïdes, c'est en fait très compliqué. Et pour des raisons, c'est même pas des raisons, j'irais, astrophysiques, c'est même plus bête que ça, j'allais dire, c'est que même sur Terre, vous pouvez parler avec des gens, des géologues, etc., la physique de la fragmentation d'une roche est encore très mal comprise. Vous prenez une roche et vous la cassez, on sait à peine simuler ça. Comment les fissures se propagent dans une roche, comment ça se passe, les modèles de fragmentation sont très très compliqués. C'est un phénomène qui est très compliqué parce qu'on a deux aspects. Quand on casse une roche, alors surtout à haute vitesse, ce qui est le cas dans la ceinture des astéroïdes, les vitesses de collision sont de 5 km par seconde.
C'est beaucoup.
C'est énorme. C'est une dizaine de milliers de kilomètres heure. Enfin bon, je fais ça de tête, mais c'est à peu près ça. Donc c'est quand même très très gros. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on fait des collisions à cette vitesse, qu'on fait d'ailleurs dans des expériences en laboratoire, on a une onde de choc qui se propage dans la roche. Et ensuite, génération de fractures dès qu'on dépasse des seuils de traction qui correspondent au seuil adéquat pour la roche qu'on étudie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus est compliqué parce qu'il y a une phase hydrodynamique. Propagation du nombre de chocs, c'est de l'hydrodynamique. Donc il faut aussi bien faire un calcul de mécanique des fluides qu'un calcul qui tient en compte en même temps de la partie solide de la roche. Donc on n'a pas affaire qu'à un fluide, on a affaire à une roche, donc il y a un aspect solide. Et bizarrement, d'ailleurs, l'hydrodynamique, on la calcule assez bien. Et toutes les parties, le fait que ce corps sont des solides, on ne sait pas bien le calculer. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très compliqué. Et quand on essaie de justement faire des simulations et de les contraindre, on les contraint par rapport aux expériences en laboratoire. C'est-à-dire qu'on essaie de reproduire des expériences de laboratoire qui sont faites sur des corps de 1 cm. Et ces seules expériences-là ne nous permettent pas de comprendre ce qui se passe à des tailles beaucoup plus grandes, même au mètre, on ne sait pas si on peut extrapoler, mais alors quand on parle d'objets de 100 km de diamètre, c'est terminé.
La composition des astéroïdes de la ceinture principale est-elle homogène? S'agit-il de corps qui ont tous la même composition, la même densité, le sait-on?
Alors, la composition, la seule manière de... Pour l'instant, les seules contraintes que l'on a, ce sont les spectres. Comme je disais, on fait des spectres de ces objets et on compare avec les spectres des éléments qu'on a sur Terre. Hein, on a une ribambelle d'éléments, et puis si le spectre correspond à un élément sur Terre, mais voilà, c'est l'objet. Alors ce qu'on a pu voir de ce point de vue-là, c'est que oui, il y a une différence de composition, encore une fois, selon la distance au Soleil. Plus il fait froid, plus ça peut être riche en matériaux volatiles. Plus ça peut être riche en volatiles. Par exemple, pour être simple, les parties internes de la ceinture des astéroïdes, donc à moins de 3 unités astronomiques du Soleil, 3 fois la distance Terre-Soleil, on a beaucoup d'objets de type ce qu'on appelle S, c'est-à-dire riche en silicates. Quand on va plus loin, on observe beaucoup d'objets de type C, ils sont plus sombres, riches en carbone. Et ça, c'est déjà une indication. de types de matériaux auxquels on peut avoir à faire face. Par contre, ça ne nous dit rien sur leur degré de porosité. Est-ce qu'ils sont faits de vide? Est-ce qu'ils sont très fracturés, etc. Parce qu'un astéroïde, c'est, il ne fait que réfléchir la lumière du Soleil qui est sur sa surface. Et à partir de la Terre, on n'a que ça. Éventuellement, on peut faire des courbes de lumière qui nous donnent des premiers indices sur la forme et sur leur taux de rotation. Mais ça reste très... Il faut aller in situ pour ça. Et c'est vrai que... donc ça, c'est les seules idées qu'on a. Par exemple, pour les densités, pour avoir une idée de leur densité, il y a deux méthodes. Donc la première, c'est d'aller in situ. Et le satellite, s'il peut se mettre en orbite, on peut avoir une détermination de la masse de l'objet, et donc de son volume, et donc de sa densité. Ou alors, si on a de la chance, et des méthodes d'observation qui sont très très pointues, comme par exemple l'utilisation du télescope Hubble ou des observations depuis la Terre qui maintenant nous permettent d'avoir une résolution élevée, on peut identifier, et ça c'est fabuleux, des satellites d'astéroïdes. C'est-à-dire qu'on a par exemple la Lune qui est un satellite de la Terre, et bien on a aussi des astéroïdes qui sont des petits mondes en eux-mêmes, des petits systèmes Terre-Lune. Ils ont un satellite. Et évidemment, en ayant l'orbite du satellite autour de l'astéroïde, grâce aux lois de Newton, on en déduit la masse de l'astéroïde et donc sa densité.
Alors on va parler de ces grands voyages autour de petits corps avec vous, à la fois, je veux dire, avec les moyens automatiques et en même temps avec la simulation, dans un second podcast.